Hello everyone.
Bonjour à tous. Nous vous remercions d'être venus à 7 heures. Nous allons prendre quelques minutes de plus avant de commencer parce qu'on a quelques problèmes techniques avec les diapos. Et puis nous allons commencer. Merci.
Good morning.
Bonjour à tous. On me dit que nous sommes prêts pour commencer, donc je vous prie de prendre vos places puisqu'on a plein de chaises disponibles. Nous vous souhaitons la bienvenue au conseil d'adresse de l'organisation de soutien d'adressage. On est là pour notre réunion publique, un atelier qu'on a organisé. On est ici pour l'assaut AC. Moi-même, je représente cet organisme dont je viens de parler. Nous sommes l'organisme du forum de l'ICANN qui s'occupe des adresses IP en termes généraux. Il y en a qui parlent comme l'ICANN de point à point. Il y en a 5 régions de registres Internet au monde, comme vous savez déjà, qui s'occupent des enregistrements d'adresses IP et des adresses et des numéros. Ces ressources en généraux sont allouées suivant des politiques élaborées par les différentes communautés à travers des processus d'élaboration de politiques et notre organisation de soutien a 3 personnes de chaque région qui sont soutenues par leur communauté, c'est-à-dire que nos membres sont élus à travers des processus d'élaboration de politique et des mécanismes ascendants. Dans cette séance, nous voudrions souligner les activités et les séances récentes que les registres Internet régionaux et la communauté ont organisées récemment. Le but de notre séance et de travailler de manière interactive, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque point de l'ordre du jour, nous allons consacrer quelque temps à l'interaction. Nos présentateurs vont avoir une limite de temps pour leur présentation. Vous avez l'ordre du jour disponible sur le site de la séance. On les a réagencés un peu, donc pour que vous compreniez tous, ce que vous voyez du côté de la séance n'est pas exactement ce que nous allons faire. Nous allons d'abord commencer par le débat de ce processus d'élaboration de politique qui sera présenté par notre président de ASSO-AC, M. Louis Lee. Par la suite, nous allons discuter des activités de l'équipe CRISP. C'est Nurani Limpono qui va présenter ça. Cette activité a été la principale du comité des arrières et nous allons entendre sa mise à jour par rapport aux activités qu'ils ont faites jusqu'à aujourd'hui. Finalement, nous allons parler de la mise à jour opérationnelle des arrières IANA. C'est Axel Pollic qui va nous donner cette mise à jour. Il nous semble qu'il y aura toujours du temps à la fin de la séance pour d'autres mises à jour ou d'autres informations. Avant de commencer, je voudrais également noter qu'en ce moment, avec cette disposition de la séance, on a un équilibre entre les genres qui est complètement parfait. Alors, je voudrais le souligner aussi. Hein. Julie, vous pouvez commencer. Louis-Li prend la parole. Merci. Félix, je m'appelle Louis-Li. J'ai mis mon chapeau de Louis-Li, que vous connaissez déjà. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Bien, je me suis trompée de bouton, pardon. C'est la technologie des diapos qui me confond un peu. Nous allons maintenant parler un peu du rapport entre l'ASSO et l'ICANN, les ressources de numéros, et puis finalement le processus d'élaboration de politique des RIR. L'ASSO et spécifiquement le conseil d'adressage de l'ASSO ont des devoirs spécifiques. Ils conseillent la communauté des adresses IP et des ASN. Et nous avons la possibilité de désigner deux membres du conseil d'administration aussi. Nous nommons des membres qui vont participer aux activités d'autres groupes de travail. Les ressources de numéros. Maintenant, on va voir de quoi il s'agit. Voici une définition qui est publiée sur notre site web. Mais on peut penser aux ressources de numéros comme un système de cartes crédit. Donc, par exemple, on a une carte avec un ensemble de numéros. Peut-être que les numéros spécifiques ne vous intéressent pas, mais ce qui va vous intéresser de ce numéro est le fait qu'il est unique. Ça vous donne des droits. Alors, vous pouvez utiliser ce numéro pour dire à un vendeur que vous allez lui payer si peut charger ce débit à ce numéro spécifique. Pour que la compagnie de carte crédit vous donne ce numéro, il faut que vous remplissiez des formulaires, que vous signiez des clauses, un contrat, et on espère que la compagnie vous donne un numéro de carte crédit à la suite de cela. Alors, cette adresse IP constitue un identifiant unique sur Internet, comme la carte crédit, mais sur Internet. Alors, on a aussi un autre numéro qui est le système de numéros autonomes. Ces numéros identifient les adresses IP que vous contrôlez, que vous administrez, gérez. Et cela dit au reste du monde que si vous voulez atteindre ces adresses, il faut que vous accédiez à ce réseau. Cela est donc annoncé à travers ce système de numéros autonomes. Alors, comment peut-on obtenir ces adresses et ces numéros? Bien, d'abord, il faut vérifier avec votre registre Internet régional. Chaque registre a sa propre communauté qui va élaborer des politiques. Ces politiques vont alors réglementer comment ils vont recevoir les demandes, comment elles vont être évaluées et si vous devriez recevoir une adresse ou pas. Si vous ne respectez pas ces critères, vous pouvez vous rendre à votre RIR ou votre fournisseur de services Internet pour évaluer la question. Au moment de créer un réseau, d'habitude, on vous offre une adresse IP de toute façon. Alors, il faudrait voir si cet ensemble d'adresses est suffisamment grand pour vous. Et s'il ne l'était pas, le fournisseur de services Internet vous donnerait davantage d'adresses ou alors vous indiquer comment recevoir d'autres adresses. Dans les différentes régions, nous avons des RIR, des registres Internet nationaux qui vont vous donner des adresses à travers ce système des RIR. Je viens tout juste de parler des registres Internet régionaux que vous voyez sur cette carte. C'est ainsi qu'on divise les différentes régions. Si vous connaissez la CCNSO ou les régions de l'ICANN, la division est similaire mais n'est pas identique. Par exemple, dans la région aérienne, Sur la carte, cette région est intégrée par les États-Unis et le Canada. Mais ce que vous ne voyez pas facilement est qu'il y a beaucoup de pays des Caraïbes qui appartiennent aussi à cette région. Je pense que c'est à peu près 34 économies nationales qui appartiennent à cette région aérienne. Et puis pour RIP, on a l'Europe et la Russie. APNIC comprend la région asiatique et l'Australie. Et la région de l'ACNIC comprendrait non seulement l'Amérique du Sud, mais aussi certaines régions de l'Amérique du Nord qui se considèrent comme faisant partie de l'Amérique latine. AFRINIC, bien sûr, n'a pas beaucoup de modifications. Ils sont intégrés par la région africaine et certaines économies de l'océan Indien. Alors, comment peut-on demander une adresse IP auprès des registres Internet régionaux? Une fois que l'on voit si on remplit les exigences, il faut vérifier les manuels de politique de chaque région. Si vous êtes une entité qui a un réseau qui comprend plusieurs régions, par exemple non seulement l'Amérique du Nord, mais aussi l'Europe ou d'autres régions peut-être, vous verrez qu'il existe un aperçu comparatif entre les politiques. Ce document est disponible sur le site web de la NRO, nro.web, et dans l'onglet des politiques, vous verrez qu'il y a une option d'accéder à cet aperçu de politique, cet aperçu comparatif des politiques des RIR. Et ici, on voit l'index, la table des matières. Alors, que se passerait-il si on ne remplit pas les exigences? Bien. D'habitude, les LIR ou les fournisseurs de services Internet vont vous donner un ensemble d'adresses IP plutôt petit. Mais si vous voulez un ensemble plus grand que le fournisseur de services Internet ne veut pas vous donner ou s'il doit travailler avec vous pour vous le donner et que vous ne respectez pas les politiques, comme vous voyez sur le manuel des politiques, vous pourriez modifier la politique pour qu'elle satisfaise vos besoins. Alors, je vous encourage à contacter le personnel de votre RIR pour vous assurer que vous ayez bien compris la politique ou pour vous assurer que vous ne l'ayez pas mal interprétée. Alors, de toute façon, je tiens à dire que vous avez l'option de modifier les politiques. C'est comme cela, d'ailleurs, qu'on élabore le manuel de politique. Nous avons ici du matériel infographique qui comprend le cycle de vie d'une politique. Ce cycle de vie montre comment s'élaborent les politiques au sein de chaque région et s'il s'agit d'une politique globale, mondiale, elle passera au niveau de l'ICANN. On a différentes politiques qui couvrent l'attribution d'adresses IP entre l'IANA et les RIR. C'est l'ICANN donc qui exerce cette fonction d'intermédiaire. Votre demande auprès de l'RIR, en général, correspondrait aux demandes de politique régionale. Pour pouvoir présenter une telle demande, il faudrait participer à un processus d'élaboration de politique ouvert, multipartite ascendant et transparent. Toutes ces politiques sont élaborées au sein d'une région, de chaque région. Et certaines politiques dépassent les limites des régions parce qu'il y a des contributions de la communauté, il y a du temps qui est consacré au débat, à la discussion, on suit des processus consensuels et dernièrement, il y a aussi un processus de mise en œuvre qui est suivi. Ces processus varient entre les régions par rapport, par exemple, à l'échéancier, à la fréquence avec laquelle les politiques sont évaluées, mais en général, ces processus sont assez similaires entre les régions. Vous voyez ici une image des politiques qui sont en cours de discussion en ce moment ou que nous venons tout juste de conclure qu'elles aient été ratifiées ou rejetées. Ceci devrait être publié sur notre site web d'ici peu avec tous les titres. Mais on a à peu près 30 politiques, parmi lesquelles 17 sont en cours de discussion. Une est déjà à la dernière étape. 8 ont été ratifiées, donc elles vont être mises en œuvre, et 4 ont été rejetées. Ces propositions de politique comprennent des questions comme les numéros de DNS, les ASN, IPv4, IPv6, le processus de l'élaboration de politique lui-même, la région d'utilisation et les transferts. Les régions d'utilisation et les transferts sont centrés sur des sujets qui comprennent comment on utilise l'adresse au sein de la région, si on peut l'utiliser en dehors de la région, combien on peut l'utiliser en dehors de la région, 50%, moins, etc. Et puis, il faudrait savoir aussi que ce sont des questions avec lesquelles les communautés sont en train de travailler. Et puis, il y a des ressources de chaque région qui sont partagées entre les membres ou entre les numéros qui appartiennent à différentes régions. Alors, RIP doit mettre en œuvre une politique de transfert inter-RIR d'ici peu. Il y a des régions qui ont déjà ce type de politique, ce qui permet aux membres, par exemple, d'Arin et de APNI, qui ont déjà signé ce contrat, de transférer leurs ressources d'un à l'autre. Une fois qu'on aura conclu ces politiques de transfert inter-RIR, ça va permettre de transférer les adresses des membres entre Arin et APNIC. Et il y a aussi une proposition qui est en cours d'élaboration au sein de l'ACNIC. Les propositions de la région d'utilisation chez APNIC et Arin sont en train d'être discutées. Eh bien, c'est là qu'on les discute parce qu'il faudrait voir si on permet qu'une adresse venue de ces régions soit utilisée dans une autre région. Si vous voulez voir la liste complète des propositions, vous avez ici les liens vers chacune des propositions des réunions. Et j'ai un commentaire final à dire par rapport à la participation, c'est que vous pouvez participer aux réunions de politique en personne. Vous savez qu'il y a 14 de ces réunions autour du monde, où vous pouvez également participer à travers les moyens de participation à distance. Vous pouvez également rejoindre les listes de diffusion, dont vous avez ici les liens. Et une remarque finale est qu'il n'est pas nécessaire d'appartenir à une région pour pouvoir participer au processus. Si vous avez une idée à contribuer ou si vous voulez discuter des idées des autres, vous avez la liberté de le faire. C'est justement une question de rejoindre ces listes de diffusion. C'est tout. Et donc, les gens peuvent voir ce qui se passe à travers ces listes de diffusion. On est maintenant au moment des questions-réponses. Félix prend la parole. Merci. Louis, y a-t-il des questions que vous voudriez poser à Louis sur les PDP ou l'organisation de soutien à l'adressage, nos structures, notre participation au forum de l'ICANN? Non? Bien. Avant de passer à la prochaine présentatrice, Nourani, je voudrais faire un commentaire. Il est très important de savoir que dans de nombreux cas, pour les processus de PDP qui sont déjà mis en place au sein des différents registres Internet régionaux, on sait qu'il s'agit de processus qui existent depuis très longtemps, ce qui montre que ces processus fonctionnent correctement, qui travaillent avec les différents membres et qui suivent les différents processus nécessaires. Il me semble qu'il est important de toute façon de souligner qu'il n'est pas nécessaire d'assister aux réunions en personne. Ce n'est même pas la peine de se déplacer. Il est important de savoir que votre participation active va dépendre de combien vous voulez participer. C'est à vous de décider cela. Tout cela est envoyé à travers un courrier électronique tout est diffusé à travers la liste de diffusion. Donc c'est à vous de décider quel est le niveau de participation que vous voulez avoir. C'est votre choix. N'est-ce pas, Lily? Bien, merci.
Alors,
nous allons maintenant donner la parole à Nourani. Nourani est la présidente de l'équipe CRISP. Vous aurez peut-être parlé de l'équipe CRISP, qui est un des cercles qui a été montré dans de nombreux transparents qui portaient sur le processus de transition du rôle de supervision des fonctions ANA. Et l'équipe CRISP fait partie de ce processus interne. On va voir donc comment cette équipe a été formée, quel est leur travail et où ils en sont. Merci. Nurani? Nurani Nimpuno prend la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Nurani Nimpuno. Je suis la vice-présidente de l'équipe CRISP. C'est l'équipe qui est responsable de consolider et de présenter la proposition de la communauté des numéros pour la transition des fonctions IANA. Je vous remercie tous d'être venus ce matin. On sait qu'il est tôt le matin et vous avez déjà été ici pendant une semaine et vous êtes peut-être fatigué. Donc, je remercie vraiment votre effort d'être venu. Je remercie également Phyllis de cette belle présentation. Il me semble que Louis nous a donné une explication exhaustive de la structure des RIR. Donc, je ne vais pas reprendre cela, mais je voudrais surligner les faits sur lesquels Phyllis et Louis ont déjà parlé. Les communautés des RIR sont ouvertes, inclusives et transparentes. Et au sein de la communauté des numéros, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose que les membres de la communauté des RIR vivent au jour le jour. Alors, le processus de supervision de IANA et la communauté des numéros ont commencé au sein de chacune des 5 régions des RIR. Donc, dès que la NTIA a fait son annonce, les RIR ont commencé à discuter avec leur communauté individuellement, chacun de son côté. Et le long de l'année dernière, on a collecté des contributions de chaque région. Par la suite, on a décidé de créer une équipe pour représenter chaque région et pour essayer de réconcilier ou de consolider toutes les contributions que nous recevions. On a décidé d'avoir une équipe de 15 membres, c'est-à-dire 3 représentants de la communauté de chaque RIR. Moi, je suis une représentante de la région RIP. Quel est le processus qui a été suivi? Eh bien, les discussions ont d'abord commencé au niveau des régions, comme je l'ai dit, et puis on a créé l'équipe CRISP pour réunir tous ces retours, pour discuter de ces contributions et pour essayer d'atteindre le consensus au sujet du texte qui allait intégrer la proposition. Nous avons travaillé très intensement en très peu de temps. On a travaillé pendant les vacances de Noël, du Nouvel An, pour essayer de pouvoir remettre la proposition en janvier 2015. Comme vous savez, l'équipe CRISP n'est qu'une des 3 communautés opérationnelles qui ont été identifiées comme des parties prenantes de cette transition. Les autres 2 communautés opérationnelles sont la communauté des paramètres de protocole, c'est-à-dire l'IETF, qui a créé un groupe appelé IANA Plan. Puis, on a le groupe de supervision du CWG, intégré par la communauté des noms. Et dans le processus de la communauté des noms, il y a eu un autre processus indépendant qui a été créé, qui était le CCWG. Ce groupe s'occupe de trouver des solutions pour renforcer la responsabilité de l'ICANN dans la structure existante. Les 3 groupes ont travaillé de manière très indépendante jusqu'à présent avec l'équipe CRISP et l'IETF qui ont remis leur proposition le 15 janvier 2015, mais la communauté des noms a indiqué d'emblée qu'ils auraient besoin de davantage de temps. Donc ils ont élaboré une 2e version préliminaire de leur texte en mai, qu'ils ont maintenant présenté la 3e version préliminaire de leur proposition. En ce moment, le CWG est en train cours d'essayer d'approuver leurs propositions qu'ils vont remettre à l'ICG. C'est le groupe de coordination pour la transition du rôle de supervision des fonctionnaires. Comme vous voyez, j'allais parler de ces questions en davantage de profondeur, mais étant donné qu'on est presque sur le point d'arriver à la date butoir de présentation de notre proposition par l'ICG à la NTIA à travers le conseil d'administration de l'ICANN, on s'est rendu compte tôt dans le processus qu'il était important de travailler avec les autres communautés pour ne pas créer des conflits, pour essayer de concilier les conflits potentiels entre les différentes propositions. Alors, maintenant, en ce qui concerne la proposition de la communauté des numéros, on dirait qu'il s'agit d'un document qui est disponible sur le site web de l'IANA, mais je vais de toute façon expliquer les éléments clés. La fiabilité et la stabilité des fonctions IANA étaient un des critères qui avaient été définis par la NTIA au début du processus. Cette exigence était importante parce que l'IANA devait absolument continuer à fournir ses services à la communauté de manière solide, stable et fiable. C'est également une composante clé de la proposition de la communauté des numéros. Comme telle, la communauté des numéros a dit clairement qu'ils étaient satisfaits avec le travail de l'ICANN comme fournisseur des services IANA. Et la proposition suggère que l'ICANN soit toujours le fournisseur des services IANA. De toute façon, il était également important d'avoir des dispositions pour une potentielle transition à un autre fournisseur si le besoin était une réalité à un point, c'est-à-dire si jamais on avait besoin de changer de fournisseur.
Donc il a fallu que les RIR obtiennent un niveau de service. Donc il s'agissait de remplacer le rôle de la NTIA, pour ce qui concerne les ressources de numéros. Donc établir un SLA avec l'ICANN pour ce qui concerne les opérateurs de services de numéros. Mais pour nous, il était important d'identifier réellement la partie des services de l'IANA qui s'appliquait à notre communauté. La communauté des numéros a depuis longtemps établi des processus ascendants et des structures ascendantes. Mais nous avons pensé que dans le processus de révision, nous pourrions peut-être ajouter un élément supplémentaire de participation de la communauté. Donc, dans nos discussions avec les différentes communautés, on a débattu de plusieurs modèles. Nous avons convenu que la révision de la communauté pourrait nous aider à réviser les niveaux de service. Donc ça a constitué un autre élément où nous avons dit, voilà, nous allons mettre en place le cadre pour cela, élaborer une proposition, mais nous avons convenu que chaque RIR allait mettre en place un comité ou mettre en place un modèle de ce type. Et il y a eu également un élément par rapport aux droits de propriété intellectuelle. Avec le nom de domaine pour les marques déposées du service IANA. Donc nous avons trouvé, surtout dans le contexte ICANN, beaucoup de discussions et débats qui se sont focalisés autour de la question de la responsabilité. Donc il y a eu beaucoup de propositions autour des numéros. Comment est-ce que la responsabilité vis-à-vis de l'IANA est structuré. Donc, le NTIA est redevable vis-à-vis de l'ICANN et quelles sont les responsabilités au sein de l'ICANN. Donc, ce que l'on propose, c'est de remplacer la NTIA avec d'autres RIR, avec l'aide de ce comité de révision fondé sur la communauté et au-delà de cela, demander au RIR et à l'ICANN d'avoir une redevabilité au niveau contractuel entre l'IANA et les opérateurs de l'ICANN. Donc, comme je l'ai dit, le rôle de ce comité de révision était de donner un avis au RIR par rapport au niveau de service et de s'assurer que le point de vue de la communauté est écouté dans ce processus. Avec des représentants de la communauté, avec une représentativité égale pour chaque région, et la communauté RIR allait mener la sélection ou diriger la sélection de cette représentation. Donc nous avons proposé une charte ou un mandat pour ce comité de révision. D'ailleurs, nous avons proposé donc ce mandat et nous attendons vos réactions et vos commentaires là-dessus. Voilà un graphe qui vous montre un petit peu qu'il y a une représentation égale pour chacune des régions. Et comme vous pouvez le voir, chacun des membres du comité de révision sont tout à fait satisfaits de cette représentativité égale. Alors, quels sont les principes de cet accord? Nous avons parlé déjà de ce qui devrait être intégré dans les niveaux de service entre l'INA et les opérateurs pour ce qui concerne la convention de service. Ce n'était pas notre rôle d'écrire ou d'élaborer ce contrat. Nous ne sommes pas une partie contractuelle ici à l'ICANN. Donc, plutôt que d'essayer d'élaborer un contrat ou une politique concernant les niveaux de service, nous avons dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est fixer une série de principes que les RIR sont supposés devoir respecter. Donc, quelques points saillants, obligation de faire rapport sur la responsabilité et la transparence, bien entendu, sécurité, conditions requises à ce niveau-là, mécanismes de révision dans les opérations IANA et mécanismes pour faire face à des problèmes qui peuvent survenir à ce niveau-là et également pour ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle. Également, ce qui a été très encourageant, même si on a travaillé dans un délai très court et sous pression, il a été très encourageant de voir un soutien explicite par la communauté en général dans tout ce processus et également au moment où les propositions ont été soumises. Et il a été réellement très important d'obtenir des informations, des retours de commentaires de la part de la communauté. Nous avons eu également plusieurs réunions dans les régions et ces commentaires ont été soit explicites, soit implicites. Mais en tout cas, il y a eu un soutien explicite qui a été exprimé formellement et officiellement. Steve Crocker, lors de la dernière réunion de l'ICANN, a dit que le conseil d'administration de l'ICANN ne voit rien dans le fond de cette proposition qui lui pose problème. Donc, cet accord sur le niveau de service va être mis en place ici à l'ICANN. Un aperçu très rapide sur l'engagement de la communauté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez déjà ce qu'il en est et où trouver les détails de cette proposition. Je dirais simplement que nous étions parfaitement conscients du fait que il fallait écouter les commentaires de la communauté. Donc chacun des commentaires ou réactions exprimées par la communauté ont été reçus. On en a pris bonne note. Et nous avons ensuite émis une note d'information à cet égard pour donc nous assurer que ce processus était transparent. Pour ce qui concerne la coordination avec les autres communautés opérationnelles, bien entendu, nous avons trois propositions très distinctes, mais ces trois propositions seront consolidées et réunies en une lorsque l'ICG va transmettre ses propositions au conseil d'administration de l'ICANN puis à la NTIA. L'IETF et un certain nombre de propositions de l'équipe CRISP avaient différents libellés par rapport aux droits de propriété intellectuelle, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait conflit entre ces deux propositions. Dans la proposition CRISP, nous avons évoqué la confiance de l'IETF comme détenteur des droits de propriété intellectuelle et nous avons contacté la communauté de l'IETF après avoir présenté cette proposition en exprimant, et ils ont exprimé clairement qu'ils souhaitaient tout à fait soutenir cette proposition. Donc ça a été très intéressant et très important pour nous. Nous avions le sentiment qu'il était important qu'il fallait communiquer avec eux très rapidement. C'est pourquoi on leur a soumis la proposition rapidement. Si vous lisez ce terme qui est utilisé, on peut penser à une solution différente. Mais parce que l'ICG a demandé au CWG de résoudre ce conflit potentiel, nous avons pris cet aspect-là en compte. Donc, dans les sessions publiques, me semble-t-il, avant-hier, il y a eu une réunion du CWG, nous nous sommes félicités du fait que le texte est là, il est présenté, il n'est pas encore accepté, il est entre crochets, pour le dire d'une certaine manière, et il y a un engagement afin de travailler vers un texte consolidé. Donc on se sent très encouragé et motivé par ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Comme je l'ai dit, il nous reste à travailler avec les autres communautés de l'IANA. Ces autres communautés attendent que cette proposition passe par l'approbation des autres comités, puis par l'ICG. Un modèle suggère une transition post-transition, PTI en anglais. Donc ils sont en train d'examiner cette proposition et vont faire une déclaration sur la manière dont nous pensons que nous pouvons gérer cela. Ça n'est pas un problème pour nous, il s'agit simplement de voir quelle est la réaction de la communauté des numéros. On a également noté que la proposition de la communauté des numéros a une révision différente et un contrat différent, ce qui veut dire que cela permet aux trois communautés d'avoir un processus distinct, une révision distincte, une structure distincte et un contrat distinct. Donc ça, encore une fois, ça permet de ne pas entrer en conflit et c'est très encourageant. L'une des choses que nous avons soulevées dans plusieurs forats, c'est la chose suivante. Nous pensons que les processus parallèles sont importants pour avancer. Non seulement parce que c'est attrayant pour tous les ingénieurs qui travaillent, mais ça nous permet également d'avancer. Étant donné qu'on a très peu de temps et que nous sommes tous très motivés par cette transition, il est important de savoir que ces processus ne dépendent pas les uns des autres. Donc ils avancent de manière indépendante et les RIR et la communauté des numéros avancent d'ores et déjà sur beaucoup de ces secteurs. Donc l'ICG va maintenant être saisi de ces trois propositions, va faire des consultations avec la communauté à mesure que l'on avance vers une proposition consolidée. Et nous en sommes maintenant à l'étape où nous sommes en train de pallier ces incohérences entre les différentes propositions. Nous attendons vos commentaires là-dessus et nous sommes sur le point d'élaborer un deuxième projet. Et le conseil d'administration de l'ICANN a fait un commentaire sur le SLA, donc la convention de service, et nous espérons que cela va permettre, à mesure que nous négocions, qu'il ne reste pas de questions en suspens à régler. Et comme je l'ai dit, le comité de révision basé sur la communauté a fait un commentaire là-dessus et nous sommes sur le point de finaliser ce projet. Alors, que nous reste-t-il à faire? Clairement, la négociation avec ICANN sur les termes de la SLA, la convention de service. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de la nature politique de ce projet, de ce que les différentes parties étaient censées accepter ou pas. Et pour la communauté, notre priorité est la suivante. Nous sommes très motivés et nous souhaitons voir ce processus aboutir. Et l'ICANN et d'autres parties se sont engagées à soumettre leurs commentaires de manière publique. Et nous respectons les principes convenus dans la proposition. Parce que c'est ce que la communauté nous a fourni et c'est ce qu'il nous faut respecter. Jusqu'à présent, nous pensons que cette proposition reflète les besoins de la communauté et répond également aux besoins de la NTIA, et de ses exigences. Je ne sais pas si vous avez entendu l'intervention de Larry Strickling à cette réunion, qui a réellement mis en exergue le fait que le travail de la communauté doit maintenant se concentrer sur le fait de respecter ses exigences. Et nous sommes certains que nous les avons respectées. Nous sommes maintenant prêts, nous avançons pour intégrer autant que possible tous ces commentaires avant la transition, de sorte que lorsque la transition va finalement survenir, elle se fasse de manière la plus fluide qui soit. Donc nous sommes très optimistes là-dessus. Sur ce, merci à tous et j'attends vos commentaires ou questions.
No comments. Okay. I guess it's...
Phyllis, au micro, pas de questions. Bien, j'ai l'impression que ces présentations étaient très claires. Bon, j'ai une question. D'ailleurs, je m'adresse à mes propres collègues ici. Nous avons écouté les présentations d'autres groupes de travail qui sont liés à tout ce processus de transition aussi. L'un, c'est le CWG, le groupe de travail intercommunautaire sur la transparence, chargé d'améliorer la responsabilité de l'ICANN, pardon. Et donc, Atina, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Bonjour à tous, Atina Fagouli au micro. Je suis membre du CCWG et j'aimerais remercier Nikouni. Et avec Nikouni, nous sommes également représentants du CCWG, groupe de travail sur la responsabilité de l'ICANN. Donc nous suivons de près ce processus et nous y avons participé d'ailleurs dès le début de la création de ce groupe. Nous voulions nous assurer que toute proposition émanant de ce groupe n'allait pas retarder ce processus à l'ICANN et n'allait pas non plus faire interférence avec d'autres questions qui préoccupent la communauté à l'ICANN. Donc aujourd'hui, nous pouvons affirmer que ce projet de proposition qui a été publié n'affecte pas la proposition CRISP pour ce qui est des délais. La proposition CRISP ne pose pas de conditions sine qua non par rapport à la proposition du CCWG. Cela étant dit, il y a eu des préoccupations exprimées par un certain nombre de membres de la communauté, à savoir que certaines des propositions pourraient retarder la transition de l'IANA. Et pendant les consultations publiques par rapport à la première proposition du CCWG, certains membres de la communauté ont demandé à ce que cette proposition soit révisée par rapport au délai fixé. En effet, les membres de la communauté pensent que les relations d'ores et déjà établies au sein de l'ICANN sont bonnes, qu'il faut les maintenir et que les protocoles d'accord qui sont fixés et qui existent à l'ICANN sont viables. Donc que toute proposition nouvelle ne devrait pas faire interférence dans nos relations, en particulier les mécanismes de recours qui sont suggérés par ce groupe devraient envisager certains, devraient plutôt fixer les limites de son champ de compétences et ne devraient pas toucher d'autres domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. Phyllis au micro, oui, y a-t-il d'autres commentaires ? J'ai pour ma part un commentaire personnel. On parle beaucoup de tous ces processus et c'est réellement un moment historique pour l'Internet en général et les opérations dans ce domaine d'une manière générale. Même si certains processus sont très directs, d'après ce qu'on peut voir, est-ce que vous diriez qu'il y a des processus que nous avons utilisés depuis des décennies dans différents registres Internet régionaux et que cela peut contribuer au succès de cette transition? Pour ma part, je pense que les régions doivent prendre l'initiative puis produire quelque chose plutôt que d'essayer de mettre en place un processus, en débattre et l'intégrer dans un système pour atteindre cet objectif. Donc, je voulais faire un commentaire là-dessus parce que je pense que c'est un bon exemple pour des travaux futurs qui pourraient survenir. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense qu'il est important de garder cela présent à l'esprit. Est-ce que je peux répondre, demande Nourani? Nourani au micro, merci. Je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous, toutefois. Merci de ce commentaire parce que il me semble qu'on a tendance à oublier de communiquer là-dessus. La raison pour laquelle nous avons travaillé très dur sur cette proposition, mais d'une certaine manière, ça a été facile. Et cette tâche a été rendue facile, pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons en fait, elle a été rendue facile parce que, d'abord, nous pensions que la communauté des numéros dispose déjà de ces structures. Nous n'avons pas besoin de résoudre tous les problèmes de la communauté des numéros parce qu'il y a une confiance dans notre communauté. Quelqu'un qui participe à la communauté RIR, et c'est mon cas, je sais bien qu'il n'y a pas de problème sérieux qui se pose. Par exemple, établir des accords par rapport au niveau de service au sein de l'ICANN. Mais parce que les RIR et ces structures sont mûres et existent depuis longtemps, il y a des processus et des mécanismes que nous pouvions appliquer. Il ne s'agissait pas pour nous de réinventer la roue et de demander aux gens « participez, aidez-nous ». Est-ce que quelqu'un en sait un peu sur les fonctions? Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Non, ça n'était pas le cas. On avait toutes ces connaissances au sein de la communauté. Nous avions des gens qui avaient participé au RIR et aux politiques de développement des RIR depuis longtemps déjà. Donc, nous avons créé une nouvelle liste de diffusion, mais on en avait déjà d'autres qui existaient. Nous avions des réunions déjà avec ces gens. Donc, si ça n'avait pas été le cas, on aurait dû refaire le travail qu'on a fait depuis 20 ans, et ce, en 6 mois. Or, ça n'a pas été le cas, on n'a pas dû le faire. Donc, tout ce que l'équipe CRISP a dû faire, c'est d'écouter la communauté et tous les points de vue différents et trouver une position consensuelle. Donc, en fait, d'un point de vue personnel, ça a été très, très enrichissant. Phyllis au micro, oui, merci, on vous remercie, on vous félicite de votre travail. Il y a une question ou un commentaire dans la salle? Dites votre nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sherin Angeliji, du Nigeria. Seoul, au DG, l'un des coprésidents du groupe de travail, et membre également du CWG. Et je parle en mon nom propre. Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'équipe CRISP de l'excellent travail accompli. Sachant surtout qu'ils ont travaillé depuis décembre et je ne savais pas si l'équipe CRISP allait pouvoir respecter cette date butoir, mais l'équipe l'a fait et vraiment je l'en félicite. Pourriez-vous, monsieur, parler un petit peu plus près du micro? J'ai du mal à vous entendre, dit Nourani. Alors, c'est au micro de nouveau. J'ai quelques commentaires à faire. D'abord, par rapport aux présentations faites et par rapport à la proposition de la communauté des numéros, il apparaît clairement que la communauté des numéros n'est pas disposée à s'engager vis-à-vis des PTR directement. Et autre point de précision par rapport au RPI. Est-ce que la communauté des numéros fixe cette exigence pour la transition? Est-ce qu'il faut qu'il y ait transfert des marques déposées avant que cette transition n'ait lieu? Est-ce que c'est une condition sine qua non? Et une question par rapport à la durée du cycle de CRISP lui-même. Quand est-ce que CRISP va lancer la phase de mise en œuvre? Ou bien est-ce qu'il y a eu une proposition de l'ICG, à savoir qu'une fois que ce processus est terminé, l'équipe CRISP est dissolue et n'existe plus. Nourani au micro. Oui, je vais essayer de répondre à votre question. D'abord, il y a une question sur les RPI et une sur l'équipe CRISP. Il y a trois questions, dit l'orateur. C'est où nos micros? J'avais une question sur les contrats. Par rapport au fait de savoir si la communauté des numéros est disposée à s'engager vis-à-vis des PTR directement. Nourani au micro, oui, donc vous avez une question par rapport au fait de savoir si la communauté des numéros est en train d'envisager ou pas de signer de nouveau un contrat avec l'ICANN, c'est ça? Oui, alors je vais commencer par répondre à votre première question. Avec qui signer quoi? Donc c'est une question qui a été soumise pour considération par l'ICG à la communauté des numéros. Et nous avons publiquement dit qu'ils attendent de signer avec l'ICANN, et parce que cela faisait partie de la proposition et parce que cela est exprimé par la communauté. Il y a une déclaration faite par le conseil d'administration de l'APNIC, donc les RIR Asie-Pacifique, qui était soutenu par les autres RIR, disant que si les RIR allaient signer avec l'ICANN, il devrait y avoir une disposition dans le SLA sur les PTR concernant ces relations contractuelles. Je vais laisser le soin à Axel de préciser peut-être cela. Axel au micro. En fait, l'idée sous-jacente derrière cette proposition CRISP, c'est de maintenir les choses aussi simples que possible et aussi identiques à ces 20 dernières années. Donc, de faire le moins de vagues possible. Cette proposition est directe. Nous voulons présenter un SLA qui soit suffisamment souple pour être appliqué demain, si c'était possible. Donc, ce serait une solution très simple où nous aurions un deuxième niveau après le NDIA. Une fois que le contrat avec le NDIA arrive à échéance, nous aurions un autre contrat qui prendrait la suite sans trop de vagues. Donc, pour l'ICANN, il en va de même. Il y aurait des dispositions dans le contrat qui permettraient d'encadrer ces relations avec les PTR. Nourani au micro, oui. Je voulais dire également que le président de l'équipe CRISP est également assis dans la salle, Izumi Okutani. Alors, si vous lisez cette proposition CRISP, il est dit que cela fait partie de la transition. Si vous regardez la proposition de l'IETF, cette proposition ne dit pas cela aussi clairement. Donc, il peut y avoir un conflit entre les deux, mais à mesure que l'on s'approche de cette phase finale et que cette proposition est consolidée, les choses vont s'éclairer. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'objection à cette proposition. Donc, cette proposition avance. Si la communauté des numéros était amenée à devoir proposer une autre proposition, bien entendu, on en proposerait une autre. Mais là, il ne s'agit pas de modifier quelque chose convenu par la communauté. Ensuite, par rapport au rôle de l'équipe CRISP, votre question arrive à point nommé, en fait, parce que on est en train d'examiner la charte et le mandat de notre équipe CRISP pour voir ce qu'il en est après cette transition. De notre point de vue, nous avons été créés par la communauté pour représenter la communauté dans ce processus. Une fois que ce processus arrive à échéance, en réalité, la raison d'être de notre équipe CRISP n'a plus lieu d'être. Donc, il faudrait demander à la communauté s'il y a des changements qui sont nécessaires. Mais personnellement, je ne vois pas qu'il y ait un rôle nécessaire de l'équipe CRISP après cette transition.
Thank you for...
Félix Yilmaz prend la parole. Je vous remercie de ses questions et de ses commentaires. Il me semble que nous sommes maintenant prêts à passer au point suivant de l'ordre du jour. Axel, êtes-vous prêt pour parler des interactions récentes de Yana avec les arrières. Allez-y, merci. Axel Pollick prend la parole. Merci, oui. Pourquoi pas? J'ai pris un café. Tout devrait être prêt. Alors, Louis parlait tout à l'heure des processus de politique et de comment participer à ces processus, de comment recevoir les numéros qui nous sont octroyés par les arrières. La transition Yana est un sujet qui nous enthousiasme beaucoup et je voudrais maintenant vous donner une mise à jour de l'état des arrières quant au numérotage et aussi quant à l'opération opérationnelle que nous avons vraiment de Yana, parce que cela dépend d'autres gens aussi, d'autres groupes. Vous avez ici une diapo qui montre qu'il nous reste peu d'espace dans notre SIP. Ce matin, je me suis levée, j'ai vérifié mon compte Facebook et j'ai vu qu'on a 0,0 giga de plus sur mon adresse au courrier électronique. Mais ce n'est pas grave. On a différentes politiques régionales qui s'occupent de cet épuisement de l'espace et de ce qu'on peut faire par rapport à cela. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces questions dans ma présentation, mais l'idée est que dans certains domaines, l'on réserve un peu d'espace dans l'espace des adresses pour l'accès au marché, mais qu'il nous reste peu d'espace d'adresse IPv4. Alors, c'est pour cela qu'on a migré, ou qu'on a commencé à migrer à IPv6. Pour ce qui est des transferts, ce n'est pas une question qui nous surprenne beaucoup. Les transferts se font beaucoup au sein des différentes régions de services et CRIR, entre les membres. On a des transferts aussi d'un registre à l'autre. Maintenant, il y en a déjà qui ont déjà migré à IPv6, d'autres qui ne l'ont pas fait. Mais les CRIR, de toute façon, attachent sa priorité à la connaissance de ces sujets. Nous opérons des registres ensemble. Et voilà pourquoi les registres doivent être à jour et corrects pour que les informations concernant les transferts soient disponibles aux CRIR. On ne veut pas agir en privé. Au contraire, on veut avoir autant ou le moins de obstacles possibles. Ici, vous voyez quelles sont les régions de services CRIR qui ont des politiques de transfert disponibles pour des transferts entre CRIR aussi. C'est intéressant parce que vous voyez pour les différents CRIR, les différents niveaux d'IP et l'espace disponible. On a un transfert à l'heure actuelle entre les régions qui est en train d'être élaboré. RIPNCC d'ailleurs est en train de mettre en œuvre sa politique de transfert. Pour ce qui est du niveau d'interaction avec Niana, en réalité, on a un niveau assez faible. On parlait des attributions en fonction des différentes politiques mondiales. Ici, on voit l'attribution la plus récente qui a eu lieu. C'est une attribution d'espace aux CRIR qui suit les politiques d'attribution de l'espace adressage IPv4. Chaque année, chaque CRIR reçoit à peu près la cinquième partie de ce qui reste à Niana. Et de temps à autre, Niana reçoit un peu plus d'espace aussi, de l'espace qui a été récupéré. Et l'idée est que cet espace soit distribué de manière égale entre les différents CRIR. De temps à autre, on a aussi des attributions des numéros de service d'adressage. On a aussi des ensembles qui sont octroyés chaque année, mais qui ne sont pas très représentatifs. On a ici certaines valeurs des attributions d'IPv4 et d'IPv6. Ce sont les attributions qui ont eu lieu dans ces dernières 5 années. Ce n'est pas énorme. On a ici une autre image très intéressante qui montre l'activité de Niana pour les différentes communautés, les différents clients de Niana. Et ces valeurs sont représentatives des dernières 5 années. Vous voyez qu'il y a un peu de vert juste en bas de l'image. Eh bien, cette ligne verte, c'est nous. Le niveau d'interaction que nous avons avec Niana est très, très faible lorsqu'on se compare avec les autres communautés qui existent. Dans la dernière année, on a vu un peu d'activité dans l'espace des noms, surtout, je pense, à cause des GTLD. Et on a une courbe d'activité des paramètres de protocole qui correspond à l'IETF. Alors, si Niana se rappelle de nous, si on ne nous oublie pas, on sera content. Parce qu'on n'interagit pas au quotidien avec eux. En termes généraux, les CRIR ont des statistiques qui sont disponibles sur le site web de la NRO. Ce sont des données qui ont été mises à jour, qui sont mises à jour à chaque trimestre. Donc vous pouvez aller voir ces informations. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. On a aussi des travaux d'ingénierie qui sont en cours avec Niana et c'est quelque chose d'habituel. On travaille en ce moment sur le remplacement du WIS, par exemple. Et on tient à élaborer un processus pour maintenir tout ce qui se passe au niveau de Niana. Et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vous remercie et je suis prêt maintenant à passer aux questions-réponses. Félix Yilmaz prend la parole. Personne ne lève la main. Mais je demanderai à Carlos s'il y a des questions des participants à distance, non? Eh bien, alors, on vous remercie beaucoup. Et avec cela, nous sommes à la fin de notre ordre du jour. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques à faire, c'est le moment. On est là. On a ici tous les membres du conseil d'adressage ici. Donc si vous avez des questions, même si elles ne sont pas liées au point de l'ordre du jour, il nous reste 17 minutes, si je ne me trompe. On a 17 minutes de plus dans cette salle. Oui, allez-y. Merci, je suis Tachipana d'un registre. Alors, les arrières ont 14 événements par an. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le transparent de l'OILI. Mais les registres Internet régionaux sont 5. Alors, si chaque arrière se réunit 2 fois par an, je ne vois pas pourquoi on a 14 événements. Quels sont ces événements? L'OILI prend la parole, pardon. Je me suis trompée. En réalité, il y a 12 événements par an. Dans chacune des 5 réunions, il y a 2 réunions de politique. Et dans la région Arin, il y a également 2 réunions de consultation publique. C'est-à-dire que Arin a 4 jours de réunion auxquels vous pourriez participer. Donc j'ai mal calculé. Merci, dit l'intervenant du public. Philippe Zilmas prend la parole. Bien. Alors, on vous remercie de nous avoir rejoints ce matin. On finit 15 minutes avant l'heure. Vous pourriez aller prendre un café pendant ce temps. Et on vous remercie. On se reparlera plus tard. Merci.